journal, Kevin Dufresne, bonjour.
Bonjour à tous. Le pass sanitaire entre les mains du Conseil constitutionnel. Il rend son avis sur l'élargissement aux bars, restaurants, trains et hôpitaux. Aujourd'hui, certaines mesures pourraient être censurées. L'exécutif se dit serein. L'extension du pass sanitaire qui pourrait faire grimper la demande de tests antigéniques. Et bien sur la côte bretonne, on anticipe en rouvrant un centre de dépistage. La quatrième vague de l'épidémie de Covid, Hélène, au menu de votre grand entretien.
Oui, avec Karine Lacombe à 8h20, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Qui sont les patients aujourd'hui en réanimation? Faut-il le vaccin obligatoire pour tous? Une troisième dose? Garder le masque même si on est vacciné? On lui posera nos questions. On attend les vôtres, chers auditeurs. Le standard 01 45 24 7000.
Dans ce journal encore, nous serons à Tokyo où les cas de Covid continuent d'augmenter, y compris au sein du village olympique, ce qui énerve les soignants sur place. Nous parlerons aussi de sport avec le décathlonien Kevin Mayer en pleine remontée et les sports coups français à la fête aujourd'hui au JO. Et puis un ciel désespérément gris sur une grande partie de la France encore aujourd'hui. L'été, on peut le dire, est un peu pourri. Pourtant, Météo France nous avait annoncé de la chaleur. Alors se sont-ils vraiment trompés? Réponse à la fin de ce journal.
France Inter.
Après l'annonce par Emmanuel Macron, après le débat agité au Parlement, voilà la dernière étape pour la nouvelle loi sanitaire du gouvernement. Le Conseil constitutionnel va rendre son avis cet après-midi sur l'élargissement du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions, dont les soignants. C'est le Premier ministre lui-même qui avait saisi les sages après l'adoption du texte par députés et sénateurs. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
L'exécutif a fait de ces nouvelles mesures ses cartes maîtresses contre la quatrième vague. Y a-t-il un risque que le texte soit censuré, Simon ?
En tout cas, d'après les constitutionnalistes, certaines mesures posent clairement question. D'abord sur l'extension du pass sanitaire. Aux terrasses des bars et des restaurants, est-ce logique alors que l'on peut circuler sans masque dans la rue? À l'entrée des hôpitaux, pas pour les urgences mais pour les patients non urgents et pour les visiteurs. N'est-ce pas là une atteinte à l'accès aux soins? À l'entrée des centres commerciaux, est-ce une limitation de l'accès aux biens de première nécessité? Ensuite, sur l'isolement obligatoire, cette privation de liberté est-elle disproportionnée? Et puis, sur la menace d'une suspension de salaire pour certains employés qui refuseraient de présenter un pass sanitaire, cette sanction est-elle abusive? Les juristes semblent exclure une censure totale, mais sur ces points précis, les membres du Conseil constitutionnel peuvent émettre des réserves, voire censurer partiellement le texte.
Et Simon, dans quel état d'esprit Emmanuel Macron et son gouvernement attendent-ils cet avis?
Serein, nous assure l'Élysée et Matignon. L'exécutif estime que le Conseil devrait approuver les grands principes de la loi. Loi votée, rappelle l'entourage d'Emmanuel Macron, par l'Assemblée et par le Sénat, et validée par le Conseil d'État. Mais tout dépendra en fait du ton employé par les sages, de la manière dont ils rédigent leur avis, s'inquiète un proche de Jean Castex. Un avis sévère viendrait conforter ceux qui jugent ces mesures liberticides. Il pourrait renforcer l'élan des antipasses qui manifestent depuis 3 semaines, et à qui Emmanuel Macron tente d'ailleurs de répondre en personne sur les réseaux sociaux. Le président et le gouvernement espèrent éviter ce coup d'arrêt, d'autant que le temps est compté. C'est lundi que l'extension du pass sanitaire doit entrer en vigueur.
Simon Le Baron du service politique de France Inter. Ce pass sanitaire devrait donc, vous le disiez Simon, s'appliquer dès lundi dans les bars, restaurants, les trains longue distance, en plus des lieux de culture et de loisirs où c'est déjà le cas, ce qui risque de faire exploser la demande de tests antigéniques pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui n'ont pas encore eu les 2 doses. Dans les régions touristiques, c'est parfois déjà compliqué de se faire tester, à tel point qu'à Perros-Guirec, en Bretagne, on a rouvert un centre de dépistage. Faustine Calmel.
Devant la pharmacie de Trégastel, un panneau précise « test antigénique » entre 14h30 et 16h30, mais les demandes, c'est toute la journée.
Donc je suis pharmacien, j'exerce sur la côte de Granit Rose, très sollicité. Allô, bonjour, pharmacie des 7 îles, madame Lavanon. Les gens, le forum de la mer, les campings... Le Ranolien, c'est 2000 personnes sur le camping. C'est tous les 48 heures le pass. C'est infernal, infernal.
Depuis mardi, la pharmacienne peut renvoyer les patients vers le centre de dépistage ouvert à Ploumanac. Dans la salle polyvalente, toutes les chaises d'attente sont occupées.
La prochaine personne, s'il vous plaît.
Ophélie est venue avec 2 amis.
Pour aller à Océanopolis, à Brest. On a regroupé en fait les activités où on avait besoin d'un pass pour qu'elles soient combinées dans les mêmes 48 heures pour le faire qu'une fois.
En 3 heures, 47 tests sont réalisés, 50% de plus que la veille. Mais difficile de faire mieux faute de soignants disponibles. La demande risque pourtant d'augmenter dès lundi avec le pass dans les restaurants. Et c'est un enjeu touristique majeur pour le maire de Perros-Guirec, Erwan Léon.
On le voit sur certains équipements de loisirs, hein, il y a des baisses de 30% voire plus de fréquentation. Donc c'est c'était indispensable de permettre aux gens et de se faire dépister, tester. C'est essentiel pour l'activité économique.
En cette période estivale, la population de Perros-Guirec est multipliée par 5, par 10 à Trégastel.
Le reportage de Faustine Calmel. Si vous êtes vacciné, vous ne serez plus contraint d'observer une quarantaine à votre arrivée au Royaume-Uni. Mesure levée dimanche, annonce hier soir du gouvernement britannique que la France accusait d'être discriminatoire puisque la mesure ne concernait pas les autres pays européens. Londres se défendait en invoquant la persistance en France du variant bêta identifié à l'origine en Afrique du Sud. Du côté des chiffres de la quatrième vague en France, le nombre de patients Covid continue de monter doucement dans les hôpitaux, plus de 8000 ce matin et près de 1400 en soins critiques. Et après la Corse et PACA, l'Occitanie a activé le plan blanc pour pouvoir rappeler du personnel en vacances et déprogrammer des opérations non urgentes si besoin. Les entrées à l'hôpital risquent de se poursuivre un moment puisque près de 29 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés hier. Et plus de 4 000 enregistrés à Tokyo. Record de contamination. La situation ne cesse de se dégrader dans la capitale japonaise. Les hôpitaux commencent à trier les malades en donnant la priorité aux cas les plus graves, faute de place. Et pour la première fois hier, les organisateurs des JO ont reconnu la présence d'un foyer épidémique dans le village olympique où près de 350 cas ont été recensés depuis le 1er juillet. De quoi agacer les hospitaliers. France Inter à Tokyo, Karine Nishimura.
Sur les fenêtres de l'hôpital mutuel Tachikawa est écrit en gros caractères « Le directeur est très en colère, le personnel n'en peut plus, renoncer aux JO ». Jun Ito, virologue de cet établissement de la périphérie de Tokyo.
On déclare l'état d'urgence mais on fait les JO. Pour les citoyens, c'est contradictoire.
L'hôpital Tachikawa a renforcé ses capacités mais refuse presque un patient Covid-19 sur deux.
Dans de nombreux cas, pour les malades à domicile dont la situation s'aggrave, il est difficile de trouver une place à l'hôpital.
Interrogé sur cette situation, le porte-parole du Comité international olympique compatit mais souligne que c'est pire ailleurs et que les participants des JO sont séparés des citoyens.
Ces deux populations se croisent parfois mais vivent quasiment dans des mondes parallèles. Nous savons que beaucoup regardent les JO à la télévision et s'en réjouissent. La gouverneure de Tokyo dit que c'est une bonne chose car du coup, les gens restent à la maison.
La virologue Ito a un autre avis.
Moi aussi, en regardant, je suis contente, mais dès que je reviens à la réalité du coronavirus, je ne peux pas me réjouir.
Selon elle, c'est la même chose pour la plupart des soignants. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
On reste à Tokyo, les Jeux Olympiques évidemment, Kevin.
Le compteur reste bloqué à 25 médailles pour les Français. Pour l'instant, en athlée, Pascal Martineau-Lagarde échoue à 6 centièmes du podium ce matin au 110 mètres haies. Mais au stade olympique, toujours un espoir est en train de renaître. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour à tous.
Vous suivez ces Jeux pour nous, Jérôme. L'espoir, c'est Kevin Mayer en pleine remontada.
Il visait l'or olympique. Une première journée manquée lui a fait revoir ses ambitions à la baisse. Le recordman du monde de la spécialité a réussi son concours de saut à la perche ce matin, effaçant 5m20. Il peut prétendre à un podium, argent ou bronze. Tout se jouera à partir de midi et quart avec le javelot, puis le 1500m.
On va donc continuer de suivre le décathlon et Kevin Mayer. Et puis Jérôme, c'est une journée historique pour les sports collectifs français à Tokyo.
Oui, 3 demi-finales. Premier en action, les habitués, l'équipe de France de handball. 4e demi-finale olympique de suite. Face aux ambitieux égyptiens, l'ailier Valentin Porte veut effacer l'échec de Rio, la défaite en finale.
Je pense qu'on a vraiment à cœur de pas se rater cette fois. Sur la compétition, je nous sens vraiment solide. J'ai pas envie qu'on s'arrête là, quoi.
France-Égypte, 10h, 13h, vous reprendrez bien un peu de basket, les Bleus, face à la Slovénie de l'inarrêtable Luka Doncic. La clé, la défense, Nicolas Batum prévient.
On connaît tous que Luka Doncic, ce qu'il fait depuis des années, surtout cette année, moi j'ai connu en play-off il y a 2 mois encore, et que c'est juste monstrueux ce qu'il fait en ce moment, mais collectivement c'est une équipe qui joue très 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 bien. Ils sont champions d'Europe en titre.
Eux ont déjà réussi leur exploit, écarté la Pologne en quart, première demi-finale olympique pour les volleyeurs français et leur sélectionneur Laurent Tilly, vous savez, l'homme qui avait plongé sur un ballon en plein match.
Être en demi-finale des Jeux Olympiques, c'est un très bel exploit. Les Argentins, on a perdu contre eux en poule. Donc voilà, il faut se reconcentrer directement sur le match parce qu'on veut pas s'arrêter là. On est juste des survivants.
France-Argentine de volley, 14h. Les sports co-français sont à l'aube d'un jeudi historique.
Jérôme Cadet en direct de Tokyo grâce aux équipes techniques de Radio France. Merci.
France Inter, 8h10. La suite du journal avec notre série de la semaine.
Ah oui, les présidents de régions fraîchement réélus ont-ils tenu leur première promesse de campagne? On s'arrête dans dans les Hauts-de-France ce matin, présidé par l'ex-Les Républicains et candidat à la présidentielle Xavier Bertrand. Entre les deux tours, au mois de juin, il proposait ça.
Aujourd'hui, le permis, c'est devenu un impôt qui dit pas son nom. C'est 1500 euros. Sauf que l'impôt sur le revenu, tout le monde le paye pas, mais le permis, tout le monde doit le payer. Et après le permis, il y a la première voiture. Et donc, nous allons financer 90% du prix de ce permis, de façon à leur permettre, ils sont en formation ou en recherche d'emploi, à ne pas être bloqués. Je pense que c'est la clé pour qu'il n'y ait pas de frein à la mobilité, surtout pour ceux qui habitent en milieu rural.
Xavier Bertrand, entre les deux tours de l'élection régionale, 6 semaines plus tard, Claire Flochel, où en est-on ?
Promesse tenue, le Conseil régional des Hauts-de-France a effectivement voté le 20 juillet une aide nouvelle au permis pour les jeunes de 18 à 30 ans qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui sont demandeurs d'emploi, en formation professionnelle ou en apprentissage. Comme annoncé, la région financera 90% du permis de conduire, l'aide est plafonnée à 1200 euros et jusqu'à 1350 euros pour un apprenti. Lors de cette véritable première séance plénière du Conseil régional, l'opposition n'a pas manqué de déposer de nombreux amendements. Tous rejetés comme ce pass mobilité défendu par Karima Deli qui était tête de liste de l'Union de la gauche et des écologistes dans les Hauts-de-France et qui a donc rejoint la collectivité lors des dernières élections régionales.
Faut que les jeunes aient le choix. Vous leur imposez, vous dites une expérimentation du permis de conduire. Je préfère donner la gratuité dans les transports en commun, dans les trains et faire en sorte qu'ils donnent un bon coup pour la planète. Et pour l'emploi, merci.
L'opposition, qui salue tout de même l'aide apportée, déplore aussi le faible nombre de dossiers qui pourront être validés. Xavier Bertrand promet d'étendre le dispositif pour atteindre plus de 10 000 dossiers par an. Mais pour l'heure, il ne s'agit que d'une expérimentation réservée à 1 millier de bénéficiaires seulement jusqu'en décembre.
Claire Flochet, les derniers épisodes de notre série sur les promesses des présidents de région demain avec Jean Rottner dans le Grand Est.
Les Français toujours attirés par le gaz hilarant.
Malgré l'interdiction de la vente aux mineurs, la consommation ne baisse pas et les usages changent. Fini de simplement détourner des petites cartouches de protoxyde d'azote à l'origine prévues pour les siphons de crème chantilly. Désormais, les consommateurs achètent de grosses bouteilles sur Internet ou à des dealers comme n'importe quelle autre drogue. Sauf qu'en plus des conséquences pour la santé, ça fait aussi des dégâts au niveau du retraitement des déchets et ça coûte cher à la société. Exemple à l'usine Suez Val-au-Marne, Mathilde Deligny.
Le grappin descend dans la fosse et soulève 5 tonnes de déchets direction l'incinérateur. Impossible dans la masse des poubelles de distinguer ces bonbonnes bleues de la taille d'une bouteille d'eau ou d'un extincteur. Et quand elles arrivent dans le four, elles explosent. Marie-Christine Viratel, la directrice de l'usine Suez Val-au-Marne.
À cause du gaz résiduel qui est à l'intérieur et de la température à 1000 degrés, la bouteille va carrément s'ouvrir, éclater et créer une déflagration.
À l'intérieur du four, les dégâts sont importants.
On se retrouve avec des barreaux complètement cassés et ça crée des phénomènes de trous dans le four, et ce qui fait que la combustion ne peut plus avoir lieu.
Dans la salle de contrôle, un graphisme recense toutes les explosions, une par jour en moyenne depuis le début de ce phénomène en novembre dernier. Parfois, c'est l'arrêt complet du four. Marie-Christine Viratel.
7 arrêts de ligne depuis janvier, alors que normalement c'est 0. Et à chaque fois, chaque arrêt, ça prend 3 jours pour refroidir la grille, donc aller à l'intérieur du four pour réparer ce qui a été cassé.
Coût de ces 7 arrêts, 600 000 euros et des coupures de chauffage urbain qu'il a fallu compenser en plein hiver. Il faut absolument jeter ces bonbonnes en déchetterie, rappellent les professionnels.
Mathilde Dehimi, l'été sera chaud. Ça, c'était la promesse de Météo France fin avril, au moment de publier ses prévisions pour juin, juillet, août. Force est de constater qu'on est loin du compte. À l'exception des bords de la Méditerranée, les vacances sont marquées par la pluie et la fraîcheur. Alors, est-ce que Météo France s'est trompée ? Eh bien, pas vraiment, Sophie Bécherel. Elle est juste tombée sur un os.
La France, aux prises avec le phénomène de gouttes froides. Des dépressions successives qui restent bloquées sur l'Hexagone et génèrent des épisodes pluvieux et frais, mais ne concernent pas nos voisins. Le Royaume-Uni, comme le Maroc et l'Algérie, par exemple, connaissent en ce moment des records de chaleur. Ce phénomène de dépression de quelques centaines de kilomètres est trop localisé. Il échappe au modèle de prévision saisonnière, explique Jean-Michel Soubérou, climatologue à Météo France.
La prévision saisonnière, elle exploite les relations entre les conditions océaniques notamment et les conditions atmosphériques. Donc ce n'est pas du tout la même chose que les conditions météorologiques où on peut dater une prévision dans 5 jours, on s'attend à avoir telle condition. Ces modèles ne sont pas en capacité d'identifier la survenue de dépressions d'aussi petite dimension.
Voilà qui peut décevoir le grand public, concède le climatologue, mais ces modèles généraux fonctionnent désormais plutôt bien pour gérer la ressource en eau, notamment le débit des fleuves comme la Seine ou la Garonne.
La prévision saisonnière est très utile pour savoir à quelle vitesse il faut déstocker cette eau des barrages, en sachant qu'il faut être capable de garantir le soutien des grands fleuves en France jusqu'à l'automne. Et donc, il faut trouver le bon rythme.
Après chaque prévision saisonnière, place à la vérification. Est-ce que les scénarios envisagés se sont oui ou non produits? C'est l'Organisation mondiale de la météorologie qui s'en charge et la publie.
Sophie Becherel, enfin, pour la première fois de leur histoire, les Rolling Stones vont partir en tournée sans leur batteur. Alors rassurez-vous, Charlie Watts, 80 ans, va bien, mais il est en convalescence après un traitement. On ignore pourquoi. Il ne sera donc pas à la batterie le 26 septembre avec les Stones. Il sera remplacé par Steve Jordan. Charlie Watts a déjà vaincu un cancer de la gorge en 2004. Immortel, la bande à Mick Jagger.
Aussi dur que des pierres. C'était le journal de Kevin Dufraîche. Quel temps pour aujourd'hui?
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
On en parlait dans le journal L'été pourri, Stéphanie Fromentin. Eh bien, ça continue. De nouvelles pluies arrivent par l'ouest.
Et elles sont toutes neuves, toutes fraîches. Elles arrivent de l'océan. C'est dire si elles sont fraîches. Elles abordent ce matin la Bretagne, vont progressivement balayer le quart nord-ouest pour atteindre le centre Val-de-Loire, le bassin parisien et les Hauts-de-France en fin de journée. Ceci dit, la journée est plutôt calme. Le ciel se partage entre des nuages et des éclaircies sur la majeure partie du pays. Il sera même bien ensoleillé, ce ciel, dès ce matin sur le pourtour méditerranéen. Ça change. Le sud aquitain et le midi toulousain. En Corse, il faudra attendre cet après-midi pour retrouver le soleil. Le temps que le vent évacue les nuages par rafale de 90-110 km par heure, voire 150 sur les caps exposés. En revanche, sur le Grand Est et le Jura, il faudra composer avec des averses passagères qui pourront prendre un caractère orageux cet après-midi.
Et les températures, eh bien, elles sont inférieures au normal. C'est pas étonnant, tout ça, en fait.
Ouais, ça s'améliore doucement. Non, c'est pas étonnant, il y a pas de soleil. Ça s'améliore quand même doucement. Les minimales s'échelonnent de 11 à 15 degrés en général jusqu'à 18 sur le littoral méditerranéen, 11 à Gap, 15 à Narbonne et Concarneau. Les maximales varient entre 20 et 24 sur une grande moitié nord, entre 24 et 29 du sud-ouest à la Méditerranée, 20 à Lorient et Aurillac, 22 degrés à Nantes, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, 24 à Paris, Biarritz et Strasbourg.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
8h18, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, Dubaï. Sur France Inter.
Il a pris place dans le studio à mes côtés. Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Hélène, bonjour.
Hier,
à tous.
Ce sont 350 millions de dollars qui ont été récoltés pour le Liban.
Dont un tiers qui a été promis par la France qui organisait cette troisième conférence virtuelle pour le Liban. Or, cette somme, au regard des besoins du pays, est dérisoire. Pour vous donner une idée, il en faudrait 15 fois plus pour reconstruire le seul quartier du port. On sent donc bien que l'enthousiasme et la mobilisation ne sont pas du côté de la communauté internationale. Et c'est un euphémisme. Alors à qui la faute? D'abord et avant tout, à la classe politique libanaise, qui n'a même pas été capable de s'entendre sur le nom d'un Premier ministre. Et puis, les bailleurs de fonds posent une question toute bête. À qui verser l'argent? À une classe politique sclérosée et haïe par la population? Voilà des mois, par exemple, que le FMI réclame des comptes de la Banque Centrale du Liban sans jamais les obtenir sérieusement.
Emmanuel Macron n'a pourtant pas ménagé sa peine.
Comme d'ailleurs tous les présidents français avant lui, mais cette fois-ci, les résultats sont maigres, voire inexistants. En septembre 2020, Emmanuel Macron avait fixé une date limite de 3 mois aux politiciens locaux, une date qu'ils se sont fait un malin plaisir à ne surtout pas satisfaire. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce quadra, président de l'ancienne puissance coloniale de surcroît, qui prétend nous fixer des échéances? De plus, Emmanuel Macron a multiplié à leur égard des gestes de mépris lorsqu'il est revenu en septembre 2020, donc sur les lieux de la catastrophe béroutine. Il n'a même pas eu la courtoisie de les rencontrer en premier. Il a filé rendre visite à Fayrouz, c'est-à-dire ont-ils persiflé, qu'il a préféré rencontrer l'icône de la chanson arabe plutôt que de travailler avec eux. Il a préféré planter un cèdre du Liban plutôt que de se coltiner à la dure réalité politique locale. C'est à peine si on n'a pas traité de touriste.
Comme ça, sur le papier, ça paraît injuste.
Ouais, ce qu'il est moins, c'est une autre critique. En se rendant sur place, en exigeant une mobilisation de la classe politique locale et un dépassement de leurs intérêts privés au profit de l'intérêt collectif, Emmanuel Macron l'a paradoxalement remise en selle, cette classe politique locale. Lorsqu'il a réclamé en septembre 2020 la constitution dans les plus brefs délais d'un gouvernement d'Union nationale, eh bien, il a relégitimé ses politiques clientélistes et irresponsables. C'était inespéré qu'il n'osait même plus se montrer en public.
Bon, pour résumer, quoi que l'on fasse, on ne s'en sort pas.
Alors, pas tout à fait. D'abord, les remontrances et les dates limites de péremption ne font plus partie du vocabulaire d'Emmanuel Macron, et ce depuis plusieurs mois. La leçon a été comprise et le président tente maintenant une technique beaucoup plus efficace, celle qui consiste à prendre la classe politique libanaise à son propre jeu, c'est-à-dire le temps. Emmanuel Macron a décidé d'être tenace et de ne pas lâcher l'affaire. Il a commencé à tisser autour d'eux une toile serrée de discussions et de rencontres. Alors c'est moins glamour qu'une mélopée de Fayrouz, mais c'est la bonne méthode.
Merci Anthony Bélanger, géopolitique. Le grand entretien avec Karine Lacombe dans une poignée de secondes.